votre vie dans le monde libre. Sur Radio Campus 106.6, le libre n'est pas une jungle. Le libre n'est pas une jungle contre le logiciel privateur. L'écho des glous.
Bonjour et bienvenue dans le 284e numéro de l'écho des gnous, l'émission qui vous explique l'informatique libre.
Juste un intermède technique. Alexandre, ça fait quand même quelques années qu'on fait l'émission. Parle devant le micro, pas à côté de le micro.
Ouais, voilà. Mais c'est le micro qui n'est pas dans le bon axe, monsieur.
Voilà.
Est-ce que vous m'entendez mieux, cher public ?
Moi, en tout cas, les chiffres sont meilleurs.
Ah, les chiffres sont meilleurs. Merci, Pierre. Désolé pour mon absence d'il y a deux semaines. J'étais en vacances, plus ou moins bien méritées. Je vous laisserai en décider. En tout cas, heureux d'être de retour parmi vous pour vous expliquer avec Pierre l'actualité des deux semaines écoulées, car Pierre a brillamment assuré l'émission tout seul, comme un grand qu'il est, un grand de la radio, un grand de Radio Campus. J'en fais un peu beaucoup, peut-être. En tout cas, on va commencer, comme de coutume, par des actualités Internet et vie privée, et les suites du procès antitrust de Google, donc intenté par le département de la justice des États-Unis. Bon, je suis quand même étonné que pour le moment ça tienne malgré l'élection de Donald Trump, parce que bon, c'est quand même... C'est...
Google n'est pas dans les amis de Donald Trump, en fait.
C'est étonnant. Ils n'ont pas encore failloté.
Ils n'ont pas embrassé la bague, ils ont fait l'erreur.
Il va finir par nous les rendre sympathiques, ces gens. Donc le procès antitrust continue et donc là maintenant ça discute proposition concernant la vente donc, des technologies publicitaires. Alors là on s'attaque quand même au cœur du modèle économique de Google, c'est-à-dire monétiser l'audience par la publicité et contrôler le marché de la publicité en ligne.
Et c'est là où on comprend qu'effectivement ils sont dans une situation assez dangereuse, c'est que le business de Google, c'est de faire de la recherche en ligne, la recherche étant financée par la publicité. Donc on peut estimer que le business de Google, du coup, n'est pas dépendant, le business de la recherche notamment, n'est pas dépendant de ces technologies dans la publicité. C'est juste dépendant du fait d'avoir un espace à vendre aux publicitaires. Là où Google, du coup, est dans une position extrêmement dangereuse, c'est que Google a à la fois les technologies pour vendre des espaces de publicité, les espaces de publicité à vendre, et des données sur les gens. C'est cet ensemble qui est une situation monopolistique extrêmement dangereuse, plus le fait que, ben oui, sur certains de ces domaines, ils ont écrasé tous les concurrents.
Et que les informations personnelles que Google détient sur vous leur permettent donc de vendre aux annonceurs des publicités mieux ciblées. C'est une des raisons pour laquelle, ils collectent des informations, donc notamment via Gmail. Hein, ils peuvent puiser dans vos mails, dans le texte des mails, votre localisation avec Google Maps, et pas que, avec Android également, puisque ça peut remonter des informations, et pas uniquement si le GPS est activé, puisque avec le bornage des bornes, alors je dirais plus GSM, mais enfin des bornes téléphoniques,
on peut savoir
par triangulation quand même assez facilement où quelqu'un se trouve. Donc on attend les suites du procès, en tout cas on vous fera part des prochains développements.
C'est ça, après je pense que ce procès-là...
Prochaine émission...
Je pense que quand quelque chose sera annoncé, je pense qu'on sera grillé par tous les médias d'information grand public, parce que là, pour le coup, ça va être comme s'il y a une sanction, ça va être quand même un changement assez important, je pense.
C'est vrai, autant le procès antitrust de Microsoft, il était quand même pas mal documenté par la presse généraliste à l'époque.
Je me souviens à l'époque. Oui.
C'est vrai que j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup plus discret. Alors, c'est vrai que je regarde peut-être moins les chaînes généralistes, les bulletins d'information des chaînes généralistes. On en parle un peu dans le monde, le monde a toujours été plutôt bon sur ce genre de sujet pour un média généraliste, en tout cas.
C'est ça. Le sujet, effectivement, passe un peu à la trappe. J'ai l'impression que c'est pas le genre de sujet qu'on aime mettre en avant.
En sachant que l'actualité, quand même, danse par ailleurs. Ça montre aussi que c'est pas forcément une priorité, et peut-être à tort. Il faut avouer qu'entre les différentes guerres, génocides, attaques contre la démocratie en cours, il y a du sujet pour occuper les médias.
C'est ça.
On verra en juillet, août
survit.
Ce qui survit et comment ce sera meublé. On va parler maintenant, après Google, là, pour le coup, d'une entreprise qui faillote.
Oui.
nos vieux amis de Microsoft, qui a donc obéi à l'administration Trump et donc suspendu le compte mail Microsoft du président, enfin du procureur, pardon, de la Cour pénale internationale, mesure de rétorsion quant aux poursuites qui sont faites contre Benjamin Netanyahu, donc le Premier ministre, sur sa politique donc de massacre des Palestiniens à Gaza.
Voilà, tout est
le, dans, donc au moins c'est une très bonne. On pourrait presque remercier Microsoft pour cette illustration des dangers de la dépendance aux technologies Microsoft.
Voilà.
Pour le coup, c'est même pas subtil, c'est même pas sournois. On pourrait presque, en faisant l'avocat du diable, dire que c'est presque un avertissement de Microsoft. Bref, on pourrait presque le prendre comme ça. Si on a l'esprit un tantinet tordu.
C'est ça. C'est assez incroyable quand même qu'il soit allé jusque-là, quoi. C'est en plus, donc rappel, la Cour pénale internationale n'est pas basée aux États-Unis.
Elle est basée à La Haye.
Voilà.
Pays-Bas.
Donc, c'est pas rien. C'est-à-dire qu'ils ont bloqué le compte de quelqu'un. Alors, je crois que le procureur en question est américain, il me semble. Mais ils ont fait une sanction donc, contre quelqu'un auprès de la Cour pénale internationale qui n'est pas basée aux États-Unis. Ça ne leur pose aucun problème. C'est effectivement, comme je disais, ça montre à quel point Microsoft, comme toute entreprise américaine, est soumise avant tout au droit américain et le droit des pays autres dans lesquels vous avez un compte, ils s'en foutent. Juste, ça n'existe pas.
Microsoft qui, par ailleurs, annonce vouloir beaucoup de bien à l'Europe, Pierre.
Oui, tout à fait. Je trouvais que c'était amusant, le parallèle. Donc oui, donc actuellement, on en a parlé ces dernières émissions, l'Europe continue de dire qu'ils veulent aller vers plus d'autonomie, d'indépendance vis-à-vis des entreprises américaines. Forcément, sur le domaine des nouvelles technologies, ça implique Microsoft. Et Microsoft qui affirme longuement que ils aiment l'Europe, qu'ils soutiennent l'Europe, qu'ils ont toujours eu un soutien inébranlable, qu'ils veulent renforcer l'interdépendance économique qui, d'après Microsoft, les lie entre donc les États-Unis et l'Europe. Il y a une interdépendance et c'est trop bien, il faut surtout pas casser ça, quoi.
Donc, l'interdépendance existe. Est-ce que par les temps qui courent, déjà avant, mais encore plus dans le contexte géopolitique actuel, et c'est une bonne chose, on n'est pas persuadé.
Voilà. Et donc là, ils disent, oui, on va construire encore des nouveaux centres de données pour héberger des serveurs directement en Europe. On va améliorer... Alors, les centres de données, bien entendu, seront soumis aux lois, réglementations et gouvernements locaux, etc., etc., etc.
Mais Microsoft est quand même soumis aux droits américains et peut, sur requête, quand même récupérer des données, même si elles sont hébergées aux États-Unis, en Europe. Pardon.
Exactement. C'est le problème. Toujours. Parce que, pour rappel, dans les années 90, en fait, les États-Unis avaient réalisé bien avant la plupart des autres pays que le nouvel or noir à partir des années 2000, ça allait être les données. Donc ils avaient déjà commencé largement à agir dans cette direction-là.
On revient en France avec notre cher gouvernement. Et donc, j'ai presque un marronnier, mais en tout cas, ça a l'air de se préciser. C'est l'interdiction des réseaux sociaux avant 15 ans et la limitation jusqu'à la majorité.
Alors, la plupart des études sont d'accord avec ça. Et en fait, même si on regarde les textes d'utilisation, les accords d'utilisation des logiciels des réseaux sociaux, la plupart interdisent l'accès aux mineurs ou de. Enfin,
mais
concrètement, par contre.
L'interdiction n'est pas du tout.
Il n'y a aucune interdiction réellement impliquée.
Voilà, mesure où effectivement on vous demande votre date de naissance quand vous inscrivez sur un réseau social, mais aucune vérification n'est faite quant à la véracité des informations qui sont renseignées.
Maintenant, le problème. Comment mettre ce genre de solution en place?
Bon. On reparlera pas de la Belgique et de sa carte d'identité qui permet.
Oui, parce que de toute façon, c'est bon. Ça sera même pas une solution à cette échelle-là. Et donc là, on tombe encore sur. Le gouvernement va vouloir imposer aux plateformes un contrôle d'âge qui n'est pas possible techniquement aujourd'hui. Comment on fait? Puisque la personne qui a souscrit la ligne Internet. bah, même si elle est majeure, on s'en fout.
C'est de la même problématique d'ailleurs que pour les sites
les sites pornographiques où bah, le gouvernement a décidé de mettre une interdiction sans expliquer comment une telle interdiction pouvait être appliquée. Et du coup, bah, on bloque
l'interdiction existait déjà. Et ça a toujours
oui, été, oui, bon. Bien sûr, oui. Il y a une interdiction, pardon, une obligation de contrôle plus stricte plutôt qu'un simple engagement sur l'honneur. Et donc, on tombe toujours dans le même problème, comment contrôler l'âge sur Internet. Il n'existe pas aujourd'hui de solution pour ça. Mais on n'est même pas sur une question de oui, c'est les éditeurs logiciels, c'est les fournisseurs qui doivent mettre ça en place. Il y a un problème, c'est que qui a la connaissance de l'âge des citoyens, ben, à part les registres d'état civil ou ce genre de service public, il n'y a pas grand monde.
Il y a quand même une chose qui m'a fait un peu sourire, c'est la volonté également de fermer les réseaux sociaux pour les jeunes de 15 à 18 ans entre 22h et 8h du matin.
C'est
non,
mignon,
mais ça me fait rappeler,
c'est mignon.
Non mais il y a au début l'arrivée d'Internet en Europe, hein, fin des années 90, c'est pareil, il y avait un député ou un sénateur, je ne sais plus, en tout cas un parlementaire, qui voulait déposer une proposition de loi pour n'ouvrir les sites coquins qu'à partir de 23h.
Je l'avais oublié celle-là.
Ah, c'est très vieux.
Hein. Ah, c'est vieux, celle-là je l'avais oublié.
Alors, est-ce que c'est l'heure de la machine? Est-ce que...
Ah non, mais ça veut...
Comment on contrôle ça?
On a parlé de l'heure, là, il y a deux
semaines. C'est Gabriel Attal, hein, il a une tête à avoir 40 ans et un cerveau à en avoir 75, mais... On voit qui est la cible, hein, en tout cas.
C'est exactement.
Hein, c'est quand on voit la stratification électorale de ce... Des partis politiques, on peut aussi comprendre. Une autre?
Une dernière? Une autre?
Une autre? Pas une dernière quand même.
Je sais pas.
Pierre, nous ne sommes qu'à même pas un quart d'heure d'émission, comme on va pas laisser notre auditoire sur notre fin.
T'es fatigué, toi.
Ah ouais, pourtant je reviens de vacances, tu vois. Et...
Donc.
Proton pourrait quitter la Suisse suite aux menaces quant à la législation peu respectueuse de la vie privée. La question que je me pose, c'est où se réfugier ? Parce que c'est quand même une tendance européenne, américaine. Je ne parle pas des autres grandes puissances économiques ou grandes puissances tout court. On va dire la Chine et la Russie, c'est encore pire. Je suis assez circonspect sur... Ok, tu t'en vas de Suisse parce que la législation qui est un peu trop intrusive. En tout cas, ce n'est pas en France qu'on va trouver, je dirais, une législation plus favorable. Belgique, peut-être ?
Non, non, mais on est au-delà de ça. La France, en fait, il y a beaucoup de tentatives de réglementation sur ce domaine-là qui sont... voulu en France, mais qui ne peuvent se faire qu'au niveau européen. Mais donc, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits de lobbying par les différents États au niveau européen pour aboutir à plus de contrôle et en fait de violation de la vie privée au niveau européen directement. Donc, il y a un problème, effectivement. Je suis d'accord avec toi quand j'ai vu l'information. Où aller pour Proton si... Ainsi, la Suisse n'est plus un pays acceptable pour eux. Ben, en termes de pays qui est un bon respect de la vie privée, ça commence à se faire court. Hein.
Parce que ce n'est pas l'Italie de Meloni non plus.
Non, mais même, en fait, l'Union européenne va être à exclure si l'Union européenne n'est pas meilleure que la Suisse.
Si ce n'est pas la Suisse, si ce n'est pas l'Union européenne. Bon, voilà, si ce n'est pas les États-Unis, ce ne sera pas la Chine, ce ne sera pas la Russie.
Il peut rester éventuellement le Canada. Le Royaume-Uni, ce n'est pas terrible.
Ouais, le Canada, oui. Tant qu'ils ne se font pas annexer.
C'est ça. C'est certains pays nordiques qui ne sont pas... Je ne sais pas, je connais pas ça.
C'est la Norvège qui ne fait pas partie de l'Union européenne.
Voilà, ouais. Il y a peut-être deux, trois endroits par là qui pourraient aller, mais ça devient compliqué, effectivement.
Une dernière Internet des vies privées, Pierre, avant la pause musicale ?
Oui, bien sûr. On va parler
des pop-pubs publicitaires
De cookies. Tout à fait. Donc, c'est très simple. Le Transparency and Consent Framework, donc, qui est utilisé par des millions de sites web pour valider le consentement à la publicité en ligne. Ce Transparent and Machin Framework a été considéré comme illégal.
Donc, ce qu'on appelle le Transparency and Consent Framework, avec un magnifique accent anglais, c'est le principe de la pop-up.
Qui apparaît sur un site pour dire, est-ce que vous acceptez tous les cookies ou est-ce que vous ne les acceptez pas ? Et bien, en fait, le principe même de demander la question comme ça est interdit. Ça ne marche pas comme ça.
Au mieux, vous avez un bouton clairement pour les refuser, ça c'est rare.
Ça, on en a déjà parlé.
Si c'est pas trop mauvais... élève, un petit lien en haut, puis des fois, vous avez carrément la pop-up, c'est les cookies ou tu payes.
Le problème, en fait, c'est que ces mécanismes-là, alors, j'exagère un petit peu en disant qu'ils sont globalement interdits. Effectivement, non, dans certains cas, ils ne sont pas interdits. Mais ces cas autorisés sont très faibles par rapport au nombre de cas interdits qu'on voit en ligne. Donc, petite explication, on est censé vous demander votre consentement pour que vos données aillent chez des tiers. On doit vous dire, est-ce que vous acceptez que il y ait des données à vous qui partent chez Google, chez Facebook et chez YouTube quand vous visitez ce site web ? Oui ou non ? Et si vous dites non, normalement, les données ne doivent pas y aller. Le problème, c'est que ces pop-up de cookies servent souvent à cacher ce qui s'appelle le real-time bidding, donc le système d'enchères en temps réel, où un site va pousser, alors à travers tout un ensemble d'API, etc., va pousser l'information « Bonjour, j'ai un visiteur avec tels éléments qui vient de se connecter », et automatiquement, sur un système d'enchères, donc un système où des milliers de tiers, et il y en a qui peuvent apparaître...
C'est automatisé, imaginez c'est pas des gens qui...
Ah oui, c'est entièrement automatisé, mais c'est un système d'enchères où chaque annonceur va pouvoir dire moi je le prends parce que j'ai identifié, en fait, il a beaucoup regardé pour des jus de fruits en ce moment, j'ai une bonne promotion pour lui, pour des sodas, j'ai quasi une bonne pub comme ça. Et en fait, vous ne savez pas, et même le site sur lequel vous vous connectez ne sait pas à qui vont aller les données. Donc ça ne marche pas, puisqu'on est censé donner un accord avant que les données n'aillent quelque part. Et ça va au-delà, en fait, de l'interdiction des pop-up pour dire oui, les cookies, j'accepte les cookies, oui ou non. Ça, c'est faisable de faire fonctionner ça. Mais là où ça ne marche pas, et ce qui pose problème, c'est le real-time bidding, le système d'enchères en temps réel pour la vente d'espaces publicitaires. Et ça, c'est au cœur du fonctionnement des publicités en ligne depuis des années. Donc, c'est ce qu'on dit depuis longtemps, c'est que ce système-là divulgue des informations privées auprès de tout le monde, en mode open bar, et sauf que si on prend la loi, ça ne marche pas. Donc,
qu'est-ce qui se passe de l'enjeu ?
Si on dit non dans les pop-up, normalement, effectivement, les données ne sont pas envoyées. Alors ça, c'est encore un autre débat, savoir s'ils respectent vraiment ce qu'on indique là-dedans. Mais on ne peut même pas dire oui, puisqu'on ne sait pas à quoi dire oui dans ce qui est écrit là. On dit « Oui, j'accepte que les données soient envoyées à je sais pas qui ». Non, ça c'est pas autorisable. On peut pas dire « C'est pas rouge, n'importe où, c'est bon, c'est pas grave ». On n'a pas le droit de poser ça comme question. Donc, à suivre.
Merci Pierre. Nous allons écouter un premier morceau avec Axel Anarth, « Tell me why ». Vous écoutez l'écho des Gnous sur Radio Campus en 6,6, la radio numérique terrestre dans la région lilloise et campusil.com partout dans le monde.
Draw me in slowly. Brown eyes staring me boldly. I wanna take a chance on you. Real life loving you so true. I want long talks, Friday nights, kissing by the poolside. Shining light.
C'était Axel Enhardt, Tell Me Why. Vous écoutez Connectez-nous sur Radio Campus, c'est la deuxième partie des actualités. On va parler sécurité et on va parler de la Chine qui retire...
Attention, ça saute une virgule. Attention.
En Chine, donc, du côté de la Chine, l'environnement du bureau Deepin est retiré de la distribution Linux OpenSUSE.
Tout à fait, et je trouve que c'est... Moi, je ne connaissais pas du tout cet environnement de bureau. Alors, pourtant, je trempe beaucoup dans les actualités du monde Linux depuis des années et j'en avais, je pense, jamais entendu parler ou en tout cas, ça ne m'avait jamais marqué. Mais c'est un environnement de bureau majeur en Chine. C'est vraiment, c'est fortement utilisé, etc. Et donc, ben, c'est un peu l'occasion de parler un petit peu de ce qui se passe et de ben, pourquoi il disparaît de la distribution OpenSUSE. Donc, alors, Deepin, le Deepin Desktop, c'est... Effectivement, c'est un environnement de bureau qui fait partie de la distribution Linux Deepin, à nouveau. Et c'est l'une des distributions majeures en Chine, développée par Deepin Technology Co. Limited. Donc, c'est entreprise chinoise, etc. Donc, je ne connaissais pas du tout. Ça a un look qui fait un petit peu penser à du Windows 11, j'ai l'impression. C'est assez complet. Ils ont fait leurs propres applications. Ils ont un environnement complet. Ils ont un terminal, un afficheur d'images, un lecteur de musique, de vidéos, un calendrier, un gestionnaire de fichiers, un store d'applications, deux, trois trucs comme ça. Quoi. C'est un environnement assez complet. Et ici en Europe et aux États-Unis, je pense, personne n'en a jamais entendu parler, ou presque. Et là où il a fait l'actualité, c'est pas pour des bonnes raisons. La distribution OpenSUSE, jusqu'à il y a pas très longtemps, incluait le support de l'environnement du bureau Deepin. Donc, comme il y a un excellent support du chinois, notamment, effectivement, c'est assez intéressant d'avoir le support de ces logiciels-là. Mais, ben, ce qui s'est passé, et c'est intéressant de voir l'intégralité de l'échange. Alors, il y en a pour 10 à 15 minutes pour décrire exactement tout ce qui se passait. Mais c'est assez intéressant de voir comment ça s'est passé. Ça s'est échelonné depuis 2017 déjà, donc les problèmes
ont
commencé.
C'est sous surveillance depuis, oui.
Ben, c'est sous surveillance. En fait, dans les systèmes Linux, les applications communiquent entre elles. Et donc, il y a des mécanismes de sécurité. Par exemple, lorsque vous branchez une clé USB, vous voulez accéder aux données, c'est une opération qui requiert des privilèges. C'est une opération qu'un utilisateur lambda n'est pas censé pouvoir faire sur son ordinateur. Or, vous pouvez le faire sur votre ordinateur, c'est juste parce que on considère que accéder à une clé USB, c'est un cas d'usage courant, donc c'est une opération qui requiert les droits administrateurs, mais donc là ils sont attribués automatiquement pour cette action-là. C'est assez simple, décrit comme ça, mais il y a tout un ensemble de règles, de contraintes qui sont mises en place pour permettre ça. Et ce qui se passe, c'est que quand un nouveau paquet est proposé et qui ajoute des nouvelles règles là-dedans, il y a un contrôle supplémentaire qui est ajouté. Et ce qui s'est passé, c'est que en 2017, les premiers contrôles sur les composants de Deepin montraient pas mal de problèmes autour de tout ça. Donc c'était pas bien respecté, c'était pas clair. Donc le Deepin était resté en mode sous surveillance. Et ça a continué comme ça. Il y a eu des premiers retours, puis après les bugs ont été fermés pendant une activité, il y a eu des premières corrections, mais 2019 c'est revenu avec d'autres problèmes. Puis 2020, 2021, 2023, 2024. Et là, ce qui s'est passé plus récemment, et ce qui a fait que les développeurs d'OpenSUSE ont décidé de bannir Deepin de la distribution, c'est-à-dire que les paquets peuvent être encore maintenus à côté, mais ne peuvent plus être intégrés dans la distribution.
Oui. Vous pouvez toujours ajouter des sources externes.
C'est ça. Mais ce logiciel-là n'est plus voulu parce que tout simplement, les développeurs du logiciel ont décidé de cacher les fichiers pour lesquels ils avaient eu des rapports de bugs. Au lieu d'installer, lorsqu'on installe les paquets, ça n'installe plus les fichiers de politique de sécurité en question, mais par contre, ça lance un assistant qui te demande d'accepter une licence, qui est juste la licence de base, GPL ou équivalente, et ensuite, ça te demande de télécharger, ça télécharge pour toi ces fichiers-là.
Oui.
Donc les fichiers ne sont plus là dans le paquet. C'est bon, ils ne sont plus là, on les a cachés. Donc c'est clairement de la divulgation d'éléments qui consistent en des failles de sécurité. Et donc ça n'a pas été apprécié.
Bon, le fait que bon, ce soit chinois. Alors, est-ce que c'est de l'incompétence, de la maladresse ou
Non, c'est de la maladresse et de l'incompétence.
D'accord. Pour toi, tu vois pas de
les mains. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas.
Tu vois pas de main gouvernementale derrière.
Non, c'est la question. Non, parce qu'il faudrait avoir installé le logiciel, donc il faudrait derrière qu'il y ait un effort pour installer ce logiciel là partout.
Et il y a que.
Là où j'ai appuyé sur le côté chinois, c'était uniquement pour montrer ça. Un logiciel comme ça, sorti nulle part. C'est vrai que, je pense que n'importe qui baigne dans le monde de Linux, on lui demande environnement de bureau pour Linux, Deepin, il est dans les 20-50e position, quoi, facilement.
Intéressant de savoir et d'ouvrir un peu les horizons. La Chine a fait son Linux souverain également.
C'est ça. Et en fait, il ne faut pas oublier que la Chine ne vit pas dans le même Internet que nous. Ils n'ont pas les mêmes réseaux sociaux, ils n'ont pas les mêmes services de paiement. Là-bas, ils n'ont pas PayPal. Ils n'ont pas Twitter, ils n'ont pas Facebook, ils n'ont pas tous ces services-là. Même si ceux où ils peuvent accéder, ils ne vont pas aller dessus. Ils ont les leurs. Ils ont Baidu, je crois. Ils en ont qui couvrent pas mal de ces usages. C'est un autre monde numériquement. Et donc là, on en a encore l'illustration. C'était pour ça que j'avais appuyé le côté chinois. Puis après,
il y a d'autres. Est-ce qu'on a pu creuser, savoir s'il y a d'autres distributions? Est-ce qu'il y a OpenSUSE qui est la seule distribution entre guillemets occidentale à intégrer?
L'exemple était suffisant, je pense.
Curl, donc le logiciel de requête HTTP, enfin de requête web.
L'un des logiciels libres les plus répandus au monde.
Qui, là, tout seul, pas forcément sert à grand-chose, mais intégré à.
Intégré à n'importe quoi, en fait. C'est intégré à des téléphones, mais aussi à des consoles de jeux, à des appareils indépendants.
C'est pour débugger. Bon, mais c'est intégré à énormément d'applications. Interdit donc les rapports de sécurité générés par de l'intelligence artificielle. Alors, je ne sais pas qu'un rapport de sécurité pourrait être généré par de l'intelligence artificielle. Déjà.
Tout à fait. En fait, il y a une logique. Avec des gros guillemets, des grosses pincettes. Hein, je ne veux pas me salir avec cette saloperie. En fait. Il y a des gens qui gagnent de l'argent. En fait, il y a des gens qui rémunèrent pour la recherche de failles de sécurité. Et donc, il y a des gens qui gagnent de l'argent en signalant des failles de sécurité.
Pourquoi pas ?
Mais du coup, le plus simple, c'est de faire générer des rapports de failles de sécurité par l'intelligence artificielle, en espérant que ça trouve des failles de sécurité réellement, parce que c'est possible d'entraîner une IA pour rechercher des failles de sécurité dans du code. Mais derrière, ça fait juste des rapports de bugs dégueulasses et complètement invalides. Et donc là, c'est sur le site HackerOne, c'est un site de bug bounty ou équivalent. Et donc, j'ai encore une fois une explication avec un rapport de bug complètement bidon, un patch invalide, et au final, la conclusion, c'est non, c'est pas un bug, c'est n'importe quoi. Donc tout ça, c'est débile, c'est pas une faille de sécurité, faut arrêter. Et en fait, le développeur de Curl a décidé d'arrêter d'accepter ces rapports de sécurité-là, parce que juste... C'est du spam, on leur en envoie plein, qui sont tous bidons. Et on en parlait, Curl est extrêmement utilisé.
Pour les refuser, il faut qu'ils les lisent. Est-ce que du coup, il y a un pattern particulier qui permet de discriminer un rapport de bug fait par l'IA, ou il faut les lire avant de savoir que c'est de la merde?
Alors, en fait, il y a une première étape où désormais ils demandent, est-ce que vous avez utilisé l'IA pour générer ou faire cette recherche ou non? Si tu mens, il y a quand même un contrôle déjà aussi pour vérifier que tu n'utilises pas une IA pour remplir la demande. Et après, en fait, ça se voit quand quelque chose a été généré par une IA.
Mais derrière, il y a un traitement manuel.
Ah ouais, il y a quand même encore un traitement manuel. Mais désormais, s'il y a moins de traces que ça a été fait avec une IA, c'est refus.
Que tu peux entraîner une IA pour détecter l'utilisation d'une IA.
Oui. Mais ça devient fou.
Ah, c'est le chat qui se mord la queue. Encore une faille sur les processeurs Intel, Pierre.
Ouais, bon. Voilà. C'est pour changer. Donc là, mais encore une fois, celle-là, c'est que les
processeurs de lassitude chez toi.
Tout à fait. Et donc voilà, il y aura encore un correctif qui va être mis en place. On en parlait il y a 2 semaines. Donc ça serait bien que ça se calme un petit peu en termes de rigueur, on va dire, pour dans quel cas appliquer les correctifs ou non. Parce que est-ce que le correctif là a besoin d'être appliqué pour tout le monde, ou est-ce qu'il ne doit être appliqué que pour les cas spécifiquement sensible, comme l'utilisation en centre de données, l'utilisation sur des serveurs partagés, ce genre de choses. Tout ça, on n'a pas encore les informations. Mais là, cette faille-là, elle est quand même assez importante, puisque ça permet de lire n'importe où en mémoire, donc ça permet effectivement de contourner pas mal de sécurité.
Allez, une dernière sur la sécurité. Le dual boot entre Linux et Windows 11 est enfin corrigé.
Ouais, je l'ai mis en sécurité parce que c'était suite à des problèmes de sécurité que ça avait été... cassé en partie par Microsoft. Donc, en fait, Microsoft avait appliqué dans une mise à jour de sécurité, ils avaient touché à la... Ils avaient changé l'implémentation du Secure Boot Advanced Targeting dans Windows 11 en août dernier, et du coup le Secure Boot était en partie cassé pour tout un ensemble de distributions Linux depuis. Voilà, cadeau. Donc ça a été corrigé seulement maintenant par une mise à jour donc du mois de mai. Donc pendant 9 mois, il pouvait y avoir des problèmes où ben, ça ne marchait pas, donc le démarrage Linux pouvait échouer avec... violation de la politique de se battre, et puis ben, débrouillez-vous. Et donc, il y avait tout un ensemble de correctifs, toute une procédure décrite par Microsoft pour corriger, mais c'était assez complexe, il fallait faire tout un ensemble d'étapes. Et donc là, maintenant, c'est bon, c'est enfin corrigé.
C'était les actualités sécurité, la dégicalisation, c'est tout de suite après Pierce Murphy, Athens. Vous écoutez les Codes Igloo sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre et campuslib.com.
Got Marvin Gaye on the touchdown. Baby, this old town may be set in stone, but then give it up and get down. Go on and pass by the antiquities. I saw a Athena statue and I swear she winked. I want you to know, babe, that we'll be taking it slow. Hold me close in the street of light, hand on your backside, bottle to your lips, and we're gonna have a good time. Oh, we'll die trying.
Time the stars at
c'était Pierce Murphy, Athens. Vous écoutez Décoding Nous sur Radio Campus 106,6. C'est l'heure de la séquence que vous attendez toutes et tous. C'est l'heure de la dégeekalisation. Le sujet du jour, peut-on faire un lien entre Torvalds, Linus, Tannenbaum, Andrew et la ligne 1 du métro? Je suppose que tu ne parles pas de celle qui va du château de Vincennes à la Défense, mais de celle qui va de 4 cantons au CHU Euras Santé, pardon, du métro de Lille.
Tout à fait. Donc pour nos auditeurs qui ne sont pas basés à Lille, juste un tout petit peu de contexte, le métro de Lille a connu sa plus grande panne depuis sa création. Donc je vous rappelle que le métro de Lille a été conçu dans les années 70, ouvert en 1983. Donc on a réussi à battre un record de plus de 42 ans. En fait, un record qui n'existait pas, il n'y avait pas jamais eu de panne qui ait duré plus de 48 heures.
C'est-à-dire que le métro est tombé en rade le jeudi midi, il a redémarré...
À 19h30 le samedi.
Voilà.
C'est grave. Et donc, qu'est-ce que c'est que ce bordel? De quoi que ça va causer? Et surtout, quel rapport avec Linus et Tannenbaum? Là, je me suis un petit peu amusé pour le sujet, comme d'habitude. Donc, je voudrais parler un petit peu, effectivement, en fait, de complexité. D'abord, on va reprendre un petit peu sur le sujet. Torvalds et Tannenbaum, c'est quoi le lien? Lorsque Linus Torvalds a créé le noyau Linux, à l'époque, la grande mode, c'était de mettre, pour les systèmes d'exploitation, ce qu'on appelle des micro-noyaux. Et ceux qui s'opposaient au principe des micro-noyaux expliquaient notamment que le gros problème, c'était la complexité. Les défenseurs des micro-noyaux disaient que le gros avantage, c'était que c'était simple. C'était plein de composants simples. On prend plein de petits éléments et mis ensemble, pouf, ça fait un noyau complet. Et les défenseurs, les opposants des micro-noyaux disaient, bah oui, sauf que vous avez la complexité de l'ensemble de composants n'est pas la somme des complexités, mais le produit, ça se multiplie parce qu'à cause des connexions entre les composants, ça fait que c'est ingérable. Et ça fait quelque chose qui est extrêmement compliqué et qui ne peut pas être rendu performant et fiable facilement.
Avec le risque que s'il y a beaucoup de composants, s'il y a une panne, le risque est de ne pas savoir où se trouve la panne.
Exactement. Et donc, maintenant, on en arrive à notre fameux métro de Lille. Donc, lorsqu'il y a eu cette panne, on était un peu... Alors, moi, quand j'ai entendu parler de la panne, j'étais en mode, quand même, c'est chaud. Puis, j'ai vu passer un article sur la Voie du Nord. Alors... Je cite, nous faisons face à une panne informatique qui touche au sens large de nouveaux pilotes automatiques, une défaillance majeure toujours pas identifiée, ce qui nous oblige à tester tout le système, aussi bien le logiciel que le matériel et même les câbles du réseau. Je vous ai traduit parce que ces connards avaient mis des mots en anglais. Pardon. À ce jour, nous n'avons toujours pas identifié la nature de cette panne. Nous avons dû aller jusqu'à relancer des serveurs, mais tous les quarts d'heure, des bugs se reproduisent. À l'heure où je vous parle, nous n'avons aucune visibilité sur la reprise du trafic.
J'aime beaucoup le coup du redémarrage du serveur. On sent l'ultime recours dans le doute reboot.
C'est ça. Alors,
c'est une phrase qui me hérisse les poils, je pense.
Oui. Moi, parce que dans le doute reboot, ça veut dire si tu as un bug, on va redémarrer, le bug va disparaître. Et puis comme ça, tu as éliminé tout un ensemble de traces que tu aurais pu utiliser pour identifier le bug. J'en ai parlé à pas mal d'anciens collègues ou de collègues qui bossent dans l'informatique et disent « Mais moi, si je dis ça à mon chef, je me fais virer. C'est inadmissible. C'est honteux d'en arriver là. » Et en fait, donc le métro de Lille, va parler un petit peu...
Tu parlais dans le système de pilotage automatique. Là, il y a eu un nouveau communiqué donc des colis, un article plus récent. Contrairement à ce qu'on soupçonnait, l'incident ne serait en réalité pas dû... usage du conditionnel tout de même, au nouveau pilote automatique, l'origine du dysfonctionnement a été localisée sur des structures périphériques au système de pilotage sans atteinte au cœur du dispositif. On sent le flou artistique, mais en tout cas, ce ne serait pas le système de pilotage automatique. Qu'est-ce que c'est? On ne comprend toujours pas.
Sauf que ça fait partie de tout un ensemble de systèmes, donc on va repartir maintenant sur le métro de Lille. Donc pour ceux qui ne sont pas sur la métropole lilloise, depuis au moins 20 ans, on parle de doubler la taille des rames. Il serait temps.
C'est-à-dire qu'on l'a fait. C'est-à-dire qu'en 2012, ça a été lancé. C'était prévu pour être mis en service pour l'Euro 2016. Pour desservir le nouveau stade. Et donc, il fallait des rames de plus grande capacité, pas que pour ça.
Voilà. Mais... Et donc, ça n'est toujours pas en place aujourd'hui.
2025, et nous avons espoir pour courant 2026.
C'est ça.
Et on a une date, ce qui est quand même nouveau.
Voilà, ça a été une catastrophe à la mise en place. Et donc, instant cette mise en place, il y a deux choses. Le remplacement du matériel roulant, donc les rames, et le nouveau système de pilote automatique qui est un enfer pour les usagers. Il n'y a pas d'autre mot.
Il y a des rames qui attendent depuis 10 ans quand même.
Ouais. Entre les pannes, donc les retards, et l'inconfort au quotidien, parce que, Alexandre, est-ce que tu prends souvent la ligne 1 du métro qui a le nouveau pilote
automatique ? Je la prends en général pour venir ici.
Le freinage, il est bien, hein ?
Ouais, je retourne. J'ai pas.
Avant, je pouvais me.
Les valves 206, des fois, le freinage sur la ligne 2. Hein,
des fois, certaines rames, mais pas systématiquement. Là, sur la ligne 1 maintenant, systématiquement, si tu es debout et que tu te tiens pas quand elle freine, tu peux valser.
Ouais. J'en ai entendu parler lorsqu'ils l'ont mis en service, mais je vois que là, maintenant, ça me choque plus.
Parce... Alors, ils l'ont calmé. Ah. Quand ils l'ont lancé, c'était sportif, c'était un parc d'attractions. Non mais voilà, ça c'est un exemple mineur. Maintenant, tout ce système-là, en fait, alors pendant la pause, j'étais tombé sur le blabla commercial autour de ce nouveau système développé entre guillemets par Alstom. Donc Alstom en fait a acheté mais n'arrive pas à déployer correctement. Donc Urbalis Fluence qui, alors je cite, pousse l'expérience CBTC un peu plus loin en fusionnant les fonctions d'enclenchement dans une architecture centrée sur le train. Cette approche innovante. Hop, mot-clé, start-up, allez, améliore l'efficacité, deuxième mot-clé, opérationnel et la sécurité, ce qui en fait une solution idéale pour les systèmes de transport urbain modernes. Allez, un troisième. En outre, le contact radio entre les trains permet de réduire les intervalles, ce qui se traduit par des intervalles encore plus courts et une disponibilité opérationnelle 24 heures sur 24. Je vois pas le rapport pour la disponibilité, mais passons. Et là, on tombe sur, du coup, on a un système. On est passé d'un système centralisé qui avait fonctionné pendant 50 ans, avec 40 ans, on va dire, depuis la mise en production, sans bug, sans qu'il y ait le moindre drame, le moindre problème. Allez.
Oh, il y a eu quand même des arrêts, il y a eu des pannes, pannes géantes pendant la braderie.
Il y a déjà eu des pannes géantes. Alors, moi, l'une des plus grandes pannes que j'ai connues, c'était une fuite de climatisation dans le centre de contrôle. Ils ont été obligés de tout évacuer. Ça leur a pris un certain temps. Ça, c'est moins grave, je trouve, qu'une panne informatique où on dit « bon, on sait pas », et où ça dure 48 heures. Et en fait, on est arrivé sur le nouveau système, en fait, qui est d'une telle complexité que ce qui peut se passer, c'est une rame qui arrête de communiquer avec les autres. Elle sait plus où elle est. C'est un bug, et voilà. On a cet élément qui avant, les communications, elles étaient simples. Maintenant, tous les éléments parlent entre eux. C'est trop bien, c'est trop moderne. Le système informatique lui-même, on est sur un système beaucoup plus compliqué. Parce que dans les années 80, on ne pouvait pas faire compliqué.
On n'avait pas la puissance de calcul pour.
On faisait simple. On n'avait pas le choix. On faisait simple, on faisait solide. Je caricature un petit peu, mais c'était le fait. À l'époque, on devait programmer de façon simple. Et accessoirement, on ne pouvait pas dire « Ah zut, on va pousser une mise à jour après. » Enfin, on n'avait pas cette optique de se dire tout le temps « C'est pas grave, au pire, s'il y a un problème, on corrigera après. On fera une mise à jour. » Ça n'existait pas, c'était pas possible. Alors que là, je suis sûr, et je l'ai même vu dans des articles encore lors de la panne, où ils disaient « Non, le système automatique, il évolue en permanence en ce moment. Là, on ne voit pas ce qu'il y a eu comme problème qui a provoqué ça. » Vous avez un système donc de pilote automatique pour un transport qui évolue en permanence et ça ne vous pose pas de problème philosophique.
Pour faire un petit peu une nouvelle fois l'avocat du diable, lors de le lancement du métro, donc de sa première version du pilote automatique, il y avait une piste d'essai déjà qui pouvait y servir. Et une fois que la ligne était construite, il pouvait faire des marches à blanc sans perturber l'exploitation commerciale parce qu'il n'en avait pas encore. Là, il fallait aussi valider un pilote automatique sur un système de métro qui est en exploitation commerciale. Ça rajoute une difficulté.
Tout à fait. Difficulté qu'ils ont négligée en disant qu'on sait faire. Et on tombe sur le dernier point. C'est un appel d'offres marché public. Et donc, on n'a pas forcément pris le meilleur.
Mais bon, alors là, autre. C'est... Oui,
on ne va pas parler de Toulouse et de comment ça s'est passé là-bas. Non, mais...
Après, le comportement du concurrent n'a pas beaucoup plu non plus aux élus de la métropole européenne de Lille. Je pense qu'il y aura pas mal d'histoires. Enfin, là-dessus, faudrait... bon, si des journalistes de La Voix du Nord nous écoutent, on aimerait bien une enquête approfondie là-dessus.
Il serait temps. Il serait temps parce que tout ça, c'est quand même dramatique. Et Voilà, c'est l'excellence technique, l'innovation, tout ça. C'est, en fait, on a l'impression que c'est un nouveau métro développé en mode start-up.
Mais
start-up,
move
fast and break things.
C'est la culture de l'informatique. Enfin, voilà, c'est la culture. Start-up vient de la culture de l'informatique. Hein. Ça marche pas, on s'en fout. C'est la culture d'Internet. C'est IP versus ATM. ATM, ça marche, mais c'est rigide. IP, c'est souple, mais ça marche pas. C'est pas fiable. L'Internet est pas fiable. Enfin, ça a été conçu comme ça.
L'Internet a été conçu pour résister aux pannes. C'est hyper
résilient, mais pas fiable.
Voilà. Ben, c'est pas la même chose.
C'est résilient, mais c'est pas fiable.
Pour un système de transport, est-ce que c'est ce qu'on veut? Est-ce que c'est... Et en fait, voilà, on arrive là. Merci de m'avoir volé ma conclusion. L'informatique moderne n'en a rien à foutre de la fiabilité. J'avais encore un débat la semaine dernière avec un collègue qui regrettait qu'on ne fasse plus dans le mainframe. Un mainframe, c'était un tank, c'était solide. Un mainframe, tu pouvais avoir un processeur qui tombe en panne, tu le sors, tu remets un nouveau processeur et rien n'a cassé. Le truc, il tourne à 100% de ses ressources en permanence, il tient 10 piges. Vous faites la même chose sur un PC moderne, il se pète la gueule parce que les composants ne sont pas conçus pour. Parce que les logiciels ne sont pas conçus pour. Parce qu'on
vend plus facile. Voilà, après, économiquement, c'est ce modèle-là qui a gagné. Après, je pense qu'il y a un sujet... à creuser, si des chercheurs de l'Université de Lille ont envie de... Ah, bon. On ouvre des sujets. Et on va ouvrir aussi un morceau de musique.
Je peux fermer celui-ci.
Avec Novi Valtorni, New French Horn. Vous écoutez l'écho des gnous sur Radio Campus en 16,6, la radio numérique. Restez campuslille.com. No Evil Stony, un petit peu de jazz et du New French Horn. Vous écoutez l'écho des Gnous sur Radio Campus 106,6. C'est la dernière partie des actualités. On va parler logiciel et on va parler bien évidemment logiciel libre. Et on fête les 20 ans de l'Open Document, Pierre.
Et du coup, c'est même pas un logiciel.
Oui, bon, c'est un format de fichier utilisé par notamment LibreOffice. Pas le seul, mais c'est quand même le principal utilisateur.
Tout à fait. Ben, super Microsoft Office. Quand on les a obligés à l'utiliser. Donc, pour rappel, le format Open Document est né de StarOffice. Donc, en fait, Sun Microsystems avait racheté StarDivision en 99 avec la suite StarOffice. En 2002, Sun Microsystems propose de standardiser le format de StarOffice auprès de l'OASIS, donc l'Organisation for the Advancement of Structured Information Standards, donc un organisme de standardisation. Et donc, ça a été beaucoup plus loin, ça a été une nouvelle norme, ça a été beaucoup plus loin que juste prendre le format de StarOffice et l'appliquer. Donc je vais vous passer sur les détails techniques, hein. L'histoire intéresse finalement peu de gens, surtout qu'on parle de vieux formats. Et donc l'Open Document est né le 1er mai 2005, donc il y a 20 ans. Et donc c'est très vite devenu une norme ISO. Et donc Microsoft en réaction a décidé de créer son format Office Open XML, hein, histoire de faire dans la confusion, et de le faire valider par le CMA avant que ça devienne également une norme ISO en 2008. Mais donc le format Office Open XML n'a pas été implémenté tel quel dans Microsoft Office, c'est un autre format dérivé qui avait lui été implémenté.
Il y avait une petite bataille, notamment avec IBM qui était contre la standardisation du format de Microsoft.
Ah oui, mais...
Il y avait une petite bataille à l'époque.
Il y a eu une bataille, tout à fait. Elle était nécessaire. Et donc, ben là, en fait, le format Open Document a été conçu pour être une norme documentaire vraiment conçue pour durer. Et donc, ben, ça continue d'exister aujourd'hui, il continue d'évoluer. Il y a une nouvelle version, alors je ne sais plus où est-ce qu'on en est. Je crois que là, il y a une 1.4 qui est en préparation avec, ben voilà, encore quelques petites évolutions à droite à gauche. Et puis, ben, on rappelle que ce format est l'un des seuls donc ouverts et vraiment disponible partout. Je rappelle par contre que ce n'est pas du tout la même chose que du PDF. Un PDF, c'est censé être un document fini, c'est le rendu du document. L'Open Document, c'est la source du document. Donc, c'est un document modifiable.
On reste dans les anniversaires, les 10 ans de Rust 1.0 et les 20 ans du langage Rust.
Tout à fait. Donc, c'est le langage Rust, on en parle régulièrement parce que c'est un langage sécurité qui vise, enfin c'est un langage de programmation qui vise à améliorer la sécurité des systèmes. On en parle assez régulièrement. Et donc oui, là, ça fait 10 ans cette semaine que le langage de programmation Rust a vu sa première version stable et à peu près 20 ans depuis sa première version. Donc ça date de 2005 et on a toujours des failles de sécurité liées à des constructions non sécurisées, alors que des solutions existaient déjà à l'époque et il y a de moins en moins de raisons de ne pas les utiliser aujourd'hui.
L'accessibilité des bureaux Linux, donc KDE Gnome, est mauvaise mais s'améliore. Le titre est un petit peu plus familier dans son langage.
Alors, le titre anglais, moi j'ai vu. Attention. Ah. Tout de même. Donc oui, un article est passé, donc j'ai pas retenu le. Je crois que l'auteur en fait a un problème de vue et donc. Il se plaint que il aimerait aimer Linux, mais que Linux ne l'aime pas. Et en fait, il y a beaucoup, beaucoup de problèmes d'accessibilité en fait sur le bureau Linux encore.
Parce que c'est moins bon que Windows.
Ah, il y a des problèmes, oui. Il y a des technologies en fait que le bureau Linux a perdu, notamment lors du passage de X11 à Wayland.
Ce qui me semblait que justement, il y a 20 ans, c'était plutôt Linux qui faisait des efforts, les bureaux Linux qui faisaient des efforts par rapport à Microsoft.
Il y a des trucs sur lesquels Microsoft et Apple ont toujours été plutôt bons. Maintenant, ça ne veut pas dire que toutes les applications Windows sont bonnes, ça ne veut pas dire que toutes les applications Microsoft, que toutes les applications Linux sont mauvaises, mais il y a des logiciels sur lesquels ça ne marche pas. Par exemple, tout ce qui est lecteur d'écran, c'est aujourd'hui assez compliqué. Il y a beaucoup de choses où c'est pas encore bon. Il faut que toute la partie audio marche nickel. Il faut que toute la partie graphique soit capable de comprendre quels éléments doivent être lus sur une interface graphique. Et en fait, il y a beaucoup de choses comme ça qui se perdent. Alors, déjà, dans le monde Windows, je pense que si on fait une recherche approfondie, il y a pas mal d'applications, notamment les applications basées sur Electron, donc des applications web embarquées dans des applications sous Windows. Ces applications-là vont souvent avoir beaucoup de problèmes d'accessibilité parce que c'est pas fait pour, ça n'a pas été conçu pour.
On termine avec une rubrique nécrologique. Il n'y a pas mort d'homme, je vous rassure. Skype est donc décédé le lundi 5 mai. Donc, le logiciel de phonie qui rendait fou les administrateurs système par sa propension à bypasser, court-circuiter les pare-feux et toutes les couches de sécurité. Donc maintenant, c'est Teams qui est censé le remplacer. Donc une usine à gaz vis-à-vis d'un logiciel de phonie et de visio. Bon. C'est la politique commerciale de Microsoft, on va pas plus commenter que ça.
C'est aussi l'abus de position dominante, point, petit rappel. Oui.
Sur, donc, pas créé par Microsoft, mais racheté par Microsoft. Un point sur l'agenda, donc la permanence de l'association Stinux le mardi 27 mai, donc comme chaque dernier mardi du mois de 20h à 22h au Café Citoyen, place du Vieux Marché aux Chevaux à Lille, métro République Beaux-Arts. Et simple contribution demandée de prendre une consommation bio et équitable au bar. C'était le 284e, c'est pas évident à dire, hein, numéro de l'Écho des Gnous. On se retrouve dans deux semaines. Nous serons donc le dimanche 1er juin à 19h. Comme d'habitude sur Radio Campus pour le numéro 285. Il ne nous reste plus à Pierre et à moi qu'à vous souhaiter une bonne fin de week-end et tout de suite on retrouve Chupa Pimento et la musique électronique. Au revoir à tous.
Au revoir à tous, bye bye.
Le livre n'est pas une jungle comme le logiciel privateur. L'écho des